nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
À l'Institut de France, le 8 avril 2009, s'est tenu un hommage à l'inspecteur général Jacques Treffel, qui était correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, sous le titre « Jacques Treffel, bâtisseur d'avenir ». Vous allez pouvoir entendre quelques-uns des 12 intervenants de cet exceptionnel après-midi. Madame Marguerite Treffel, nouvelle présidente de la MOPA, Association des membres des Palmes académiques, a ouvert ce moment avec une très grande émotion. Elle a salué le chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, et le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud d'Autrive, ainsi que les nombreuses personnalités présentes, ambassadeurs, préfets, professeurs d'université, membres de la MOPA français et étrangers. Après l'introduction de Madame Treffel, la parole a été donnée au chancelier Gabriel de Breuil. Écoutez maintenant son intervention.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les vice-présidents de la MOPA, et sans saluer de nouveau les personnalités que vous avez saluées, j'ai envie de m'adresser à vous tous en disant « Chers amis de Jacques Treffel, lorsque nous nous sommes réunis, en effet l'année dernière, dans cette salle, le 18 mars 2008, à l'occasion de l'ouverture du colloque consacré au bicentenaire de la création des Palmes académiques, rien ne laissait présager qu'un an plus tard, nous serions réunis de nouveau pour rendre un juste hommage à celui qui a veillé avec tant de zèle au rayonnement de l'ordre des Palmes académiques, à l'infatigable président de la MOPA. Rien ne le laissait présager, en effet, car ce jour-là, nous nous en souvenons, Jacques Treffel nous est apparu égal à lui-même, fort de sa souriante efficacité, de la certitude de l'importance de sa mission. La mort l'a fauché soudainement au début de décembre, alors qu'il s'apprêtait, en compagnie de son inséparable et complice compagne, de son épouse Marguerite Marie Treffel, à partir présider à Rouen la dernière des cérémonies liées au bicentenaire des Palmes académiques. Avec une persévérance sans égale, Jacques Treffel a poursuivi son activité jusqu'au bout d'une longue vie très bien remplie. Et ce qui me frappe, ce qui frappe ceux qui l'ont bien connu et qui, en ce moment même, jettent un regard sur l'ensemble de ses multiples activités, c'est le contraste qui peut exister entre la variété des tâches auxquelles il s'est consacré et l'inspiration unique qui les anime au service de l'éducation, ou plus exactement de la modernisation de l'éducation. La carrière de Jacques Treffel, nous allons la retracer ensemble, chacun pour sa part, mais j'indique tout de suite, vous l'avez dit, madame, qu'elle se caractérise par une étonnante mobilité géographique et professionnelle. Il a toujours été mu par une insatiable curiosité du monde et des hommes, par une volonté de ne jamais se laisser enfermer dans le carcan de quelque profession ou spécialité que ce soit, de quelque fonction que ce soit. Sa carrière, en effet, s'ouvre par l'agrégation de biologie, pas la littérature, la biologie, et par l'enseignement de cette discipline à Caen, puis à Paris, au lycée Carnot pendant 6 ans. En 1956, j'énumérerai rapidement, mais la succession mérite d'être nommée. En 1956, il entame une carrière différente, l'inspection. Et comme il se doit, il est nommé d'abord inspecteur adjoint de l'Académie de Lille, où il restera 3 ans. Il devient, pendant 3 ans après, inspecteur d'Académie de la Charente. En 1962, il revient à l'Académie de Lille où il déploie un zèle infatigable pour doter ce département d'infrastructures scolaires, et c'est sans doute l'origine de cet intérêt passionné dont nous allons entendre parler par Taillibert pour l'architecture, non seulement les constructions scolaires, mais l'architecture. Alors, enseignant de biologie, inspecteur d'académie, nous avons deux composantes de l'homme que nous avons connu, le dévouement à l'éducation de la jeunesse, d'une part, et d'autre part, peut-être surtout, ce qui prendra de plus en plus d'importance, c'est son sens des relations humaines et l'importance accordée à tous les relais locaux et les relais institutionnels dans l'édification d'une politique globale de l'éducation. L'inspecteur d'académie va-t-il s'enraciner dans son département, comme cela se produit parfois ? Non. Jacques Treffel poursuit son évolution. Il monte à Paris. Il devient inspecteur général de l'instruction publique, ce qui est tout différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Il aborde une nouvelle phase et qui va le mener aux responsabilités à l'échelon national. Et très vite, il va goûter aux réalités du pouvoir, ce qui était encore une fois complètement différent. En 1973, il est directeur du cabinet d'un ministre. Tous ceux qui ont exercé de telles fonctions savent combien c'est prenant et quelle participation on a à des tâches du pouvoir. Il est le directeur du cabinet du secrétaire d'État à l'éducation nationale, Jacques Limousy, dans le gouvernement de Pierre Messmer. Il revient à l'inspection générale. Il est doyen de l'inspection générale. Il ne se laisse toujours pas fixer dans ce qui pourrait être finalement une fin de sa carrière, un prolongement, une fin de sa carrière. Il est nommé directeur. Directeur d'administration centrale, et pas de n'importe quel ministère, du ministère de l'Éducation nationale, et pas n'importe quelle direction, directeur de la prospective. Jacques Treffel va appliquer son esprit novateur à une réflexion sur l'usage et l'intérêt des nouvelles technologies en matière d'éducation. Et j'y insiste parce que c'est à cette époque que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Treffel. Je peux dire que nous avons mené ensemble, et pas uniquement à nous deux, des campagnes dans l'audiovisuel, au temps déjà ancien, où nous étions quelques-uns, pleins d'optimisme, à penser que la télévision pouvait avoir une mission éducative, qu'elle pouvait contribuer au rayonnement de la culture et aussi de la langue. Nous n'étions pas les seuls à le penser. Je veux évoquer à cet instant le nom de Dieuzède. Qui se souvient de M. Dieuzède, qui à l'époque était l'apôtre de la portée éducative de la télévision. Étions-nous raisonnables d'être persuadés de la portée éducative de la télévision au point que nous pensions à l'époque que les chaînes de télévision devaient établir des chartes de collaboration et de partenariat avec les différentes instances de l'enseignement, des différents niveaux de l'enseignement et avec le ministère de l'Éducation nationale. Ces futuritions inspirées ont d'ailleurs fait l'objet d'un rapport rendu au ministre par Jacques Treffel en 1981 sous le titre « Présent et futur » au pluriel de l'audiovisuel en éducation. Les fondements d'une nouvelle politique. Nous y croyions à l'époque, et les mêmes futurations ont fait l'objet d'un essai sur la télévision que je publiais à peu près à la même époque. Et je dois dire, rapport et essai, tous deux frappés d'un grave excès d'optimisme. Dans ses fonctions de directeur de la prospective, Jacques Treffel a aussi pu mettre en œuvre ses qualités au service d'une vision progressiste des techniques pédagogiques. S'intéressant à la pédagogie cognitive, il a participé à la définition des logiciels spécifiques pour l'enseignement. On les a appelés depuis les didacticiels et il a créé un important réseau des formateurs chargés de transmettre ces méthodes. Puis, en 1980, il regagne l'inspection générale. Il y achève sa carrière administrative en 1987, le seul élément de stabilité de sa carrière. Mais est-ce que ça veut dire que sa carrière est terminée ? Pas du tout. Il commence aussitôt une autre carrière qui le mène à la présidence de la Cité internationale universitaire de Paris pendant 3 ans, au Conseil économique et social à partir de 1994, où il est membre de la section prospective et planification et où il rédige un rapport qui a fait date sur les technopoles et le rapprochement souhaitable entre recherche universitaire et initiative privée. Mais l'œuvre majeure, évidemment, sur laquelle nous allons insister beaucoup aujourd'hui, la préférée de Jacques Treffel, c'est celle par laquelle il se consacre inlassablement jusqu'au terme de sa riche vie, à l'œuvre qui réunit finalement l'ensemble de ses carrières, c'est bien sûr la présidence et le développement de l'association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Il en prend la présidence en 1973. J'indiquerai seulement pour ma part que, avec lui, la MOPA est devenue beaucoup plus que la MOPA. Il a su lui imprimer une marque décisive et faire de cette association l'une des premières associations culturelles de France. Il lui a fixé des objectifs élevés, non seulement en matière d'éducation, mais en faveur de la jeunesse et en faveur de la langue française. Et objectif auquel nous sommes plusieurs à être particulièrement sensibles à l'orientation qu'il a donnée. Il souhaitait aussi accueillir à la MOPA des personnalités dont l'action lui paraissait ouverte et propice à concourir fructueusement au rayonnement de la langue et de la culture française. Et nous sommes un certain nombre à avoir été, par lui, invités à rejoindre les rangs de cette illustre association. Et je veux citer mon confrère Jean Cluzel, qu'il avait d'ailleurs invité à siéger au conseil scientifique de Canal Académie, la radio sur l'Internet de l'Institut et des Académies que Jean Cluzel préside et anime avec l'énergie et le talent que nous lui connaissons. La caractéristique principale de la vie et de la carrière de Jacques Treffel après cette diversité et cette mobilité me semble être que pour lui, vie et carrière ne se distinguent pas, et qu'elles sont toutes deux marquées par le sens du service et du partage, ce qui est la devise même de la MOPA, et surtout par la passion de l'éducation. Cet agrégé de biologie a su, en véritable humanisme, enrichir le domaine de sa formation, mais à se consacrer de toutes les manières qui étaient mises à sa portée à l'enrichissement de la culture et peut-être surtout aux moyens les plus efficaces de la transmettre. Il a ainsi accompli sa vocation, nous pouvons le dire et le constater aujourd'hui, il a accompli sa vocation unique et profonde, sa vocation de pédagogue, car la pédagogie n'est rien d'autre que la volonté éclairée de transmettre la connaissance aux générations futures. Et j'aime à croire, pour terminer, que Jacques Treffel aurait été heureux que, au moment où nous nous réunissons pour évoquer sa mémoire, nous ne contentions pas d'égrener les étapes de sa longue et brillante carrière, mais que nous ayons choisi comme thème d'étude son rapport à l'avenir. Jacques Treffel, bâtisseur d'avenir, quel plus bel hommage, en effet, peut-on rendre à un homme qui fut toujours en mouvement.
Après le chancelier de Breuil, c'est Jean Cluzel, président de Canal Académie, spécialiste des questions audiovisuelles, ami de longue date de Jacques Treffel, qui est intervenu sur le thème des nouvelles technologies de l'information. Écoutez maintenant son intervention.
Monsieur le chancelier, chers confrères, mesdames, messieurs, vous avez, madame la présidente, exprimé le souhait que cet après-midi je prenne la parole. Je suis sensible à cette preuve d'amitié que vous me donnez à nouveau et vous en remercie, mais vous en conviendrez, il est difficile de dépeindre à partir d'un seul sujet une personnalité aussi riche que celle de votre mari. En me tournant vers vous, monsieur le chancelier, je n'oublie pas que selon votre expression, Canal Académie était une intuition créatrice. Et c'est bien ce qu'avait compris Jacques Treffel, notre ami, notre maître, notre conseiller et aussi notre guide. Puisqu'il fit partie de cette première équipe qui a lancé Canal Academy, parce que cette création était pour nous tous l'un de ses devoirs, comme nous l'avions appris pour être fidèle à la pensée de Jules Ferry, mais aussi, si vous le permettez, à ce cri de Goethe, « Qu'est-ce que ton devoir, l'exigence de chaque jour ?» Pour Jacques Treffel, et pour nous avec lui, l'exigence ne possède aucune valeur particulière, puisqu'elle signifie simplement une force qui oblige à l'action. Émanant de notre fort intérieur, elle est le signe d'une liberté morale qui s'exerce dans l'accomplissement d'un devoir. Pour l'enseignant, qu'était Jacques Treffel, il savait que dans un monde transformé par les nouvelles technologies, il fallait accroître la diffusion des savoirs et des connaissances au plus grand nombre, en France et dans le monde. Alors que d'autres, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le chancelier, alors que d'autres utilisent les médias pour le pire et pour en retirer pour eux des avantages financiers, alors que sur Internet, nous devons offrir le meilleur pour en retirer des bénéfices en termes d'humanisme partagé. Nombreux furent ceux qui, au début de l'aventure, vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le chancelier, ce conseil stratégique que nous avions lancé, c'était un nom un peu excessif peut-être, mais il nous donnait un peu de cœur pour l'action. Nombreux furent ceux qui, au début de l'aventure de Canal Academy, s'interrogeaient sur les vertus prêtées à Internet. Internet avait-elle des vertus ? Mais hostiles ou craintifs, prudents ou enthousiastes, et grâce à Jacques Treffel, tous ont finalement compris que cette nouvelle technologie allait nous permettre un développement incroyablement rapide des possibilités de transmission du savoir et des connaissances. Comme l'a dit Jacqueline de Romilly si bien, le 11 avril de l'an dernier au palais du Luxembourg. Les académies ne pouvaient en effet être absentes de la toile. C'est pourquoi la présence des académiciens sur la toile, sur Internet, est le signe de leur volonté commune de ne pas s'effacer comme autant de lettres tracées sur le sable. Autant de lettres qui s'effacent, il ne faut pas que les valeurs de civilisation dont nous sommes les uns et les autres porteurs s'effacent. Il est vrai, toujours selon Jacques Treffel, qu'Internet constitue une révolution d'autant plus extraordinaire qu'elle s'est produite en totale liberté. Pour nous, Français, c'est une notion relativement difficile à comprendre, à admettre et à saisir. Mais favorisant du même coup, grâce à cette liberté, une communication spontanée du bout du monde à l'autre. Même si chacune et chacun d'entre nous se trouve enfermé dans une bulle, toutes les bulles communiquent entre elles. Mais cet outil ne dispense ni de la compétence, ni de la responsabilité. Bien au contraire. Parce que la pensée est maintenant libre de s'exprimer. Elle a toujours été libre. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'elle est libre, de s'exprimer en s'étant affranchie en même temps des règles qu'imposent au-delà d'elles-mêmes les techniques de l'audiovisuel, c'est-à-dire, pour reprendre ce que disait M. le chancelier tout à l'heure, c'est-à-dire que nous nous sommes écartés du schématisme et du dogmatisme que la télévision par elle-même transporte. C'est donc dans un univers devenu sans boussole que des institutions comme les académies, comme l'institut qui compose, comme l'institut, les académies qui composent l'institut, peuvent et doivent jouer le rôle que sur Internet nous assigne l'histoire. Voilà très bien ce qu'avait compris Jacques Treffel, et en vous prononçant ces quelques phrases, je pense à quelques entretiens que nous avions eu le privilège d'avoir avec lui. L'histoire, en effet, nous assigne un rôle de garant, offrir la garantie d'une recherche honnête de la vérité. Voilà ce que ces nouvelles technologies nous permettent d'apporter. Donner une caution, indiquer un chemin, voilà encore ce qu'elles ont le pouvoir de faire et par conséquent le devoir de remplir. Et tout cela, parmi les premiers, Jacques Treffel l'avait parfaitement compris. Internet au service de la pensée, la formule peut surprendre. Elle était surprenante il y a quelques années. Elle surprend encore. Demain, elle ne surprendra plus. Peut-être, sûrement, grâce à Jacques Treffel et à ceux qui le suivent, et sous votre autorité, monsieur le chancelier, aux académiciens. Et peu à peu, après les semences, nous pouvons déjà entrevoir les moissons, comme autant de découvertes. Une découverte, parce qu'il existe à Paris, Quai de Conti, maintenant, il a toujours existé un espace de liberté. Toujours existé des académiciens et leurs invités qui pouvaient s'exprimer librement, sans tenir compte d'aucune mode. Ce qui est différent maintenant, celle qui s'exprime directement avec l'ensemble du monde. Une découverte, parce que la voix des académies, c'est aussi l'une des voix de la France qui se fait entendre dans le monde entier. Une découverte, parce que ceux qui, à travers le monde, ont appris que les portes des deux bibliothèques du Quai de Conti leur étaient grandes ouvertes, eh bien, ceux-là sont aujourd'hui heureux, parce qu'ils ont une présentation conforme à leurs habitudes d'internautes et à travers le monde. Il est donc pas indispensable qu'ils viennent Quai de Conti. Une découverte enfin, car si les trompettes de Jéricho nous apprend le livre de Josué dans la Bible, on fait s'écrouler des murailles, on peut annoncer que le signal de Canal Académie, ce signal porté par Internet aux quatre coins du monde, a commencé, je pèse mes mots, a commencé de fissurer les forteresses de silence bâties par les médias. Pour conclure, je voudrais rester fidèle à nos engagements, soit d'enseignants, soit de membres de l'Institut. Fidèle, cela veut dire que nous aurions tort de croire que nous pourrions être un jour quitte de nos devoirs. Et Jacques Treffel le savait mieux que quiconque. Lui que rien n'arrêtait, lui qui ne s'arrêtait jamais, qui ne s'est arrêté qu'un certain dimanche matin de décembre de l'an dernier. Mais il nous a laissé un message. Ce message, chère présidente, à mes yeux le voici, c'est que la valeur d'un homme ne tient pas à ce que la vie a fait de lui, mais à ce qu'il parvient à bâtir avec ce que cette vie a fait de lui. C'est-à-dire en dominant sa vie pour la mettre au service des valeurs universelles. Et c'est pourquoi, en toute matière, nous avons voulu adapter notre pratique aux évolutions de l'époque, y compris les évolutions technologiques, à condition de les dominer. Parce qu'en ce cas, l'obéissance stricte et sans réflexion à la tradition eût été une faute. Ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle, a fait dire Mère Nanos à la Mère supérieure dans le dialogue des Carmélites. En terminant ce propos, j'ai voulu mettre tout à la fois, chère présidente, mon estime et ma reconnaissance pour Jacques Treffel. Je veux ajouter l'expression d'une très grande admiration envers un homme que l'on doit classer, à notre époque, parmi les meilleurs passeurs de civilisation. ceux qui savent qu'entre ascendant et descendant, nous devons être des maillons forgés de l'acier le mieux trempé. Mais tel était son cas, et nous sommes ici rassemblés parce qu'il nous a montré comment et pour qui il fallait assurer les voies de l'avenir. Quel beau programme, monsieur le chancelier, mesdames et messieurs, et j'en terminerai par là, quel beau programme et quel bel exemple à suivre.
Après Jean Cluzel de l'Académie des sciences morales et politiques, sont intervenus tour à tour M. Salas Tétier, ancien ambassadeur du Liban, grand prix de la francophonie de l'Académie française, qui a insisté sur l'une des qualités essentielles de Jacques Treffel, le sens de l'accueil. Puis M. Jean-Noël Cordier, président de la Société des poètes français, a souligné combien Jacques Treffel peut être considéré comme un modèle d'humaniste. Et enfin, c'est un autre membre de l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts, l'architecte Roger Taillibert, qui a évoqué l'intérêt que Jacques Treffel portait à l'architecture des bâtiments scolaires. Écoutez son intervention.
Je commencerai par dire que le mot bâtisseur d'avenir est vraiment l'endroit, le mot qui qualifiait le mieux cet homme, car cet homme avait une vision d'avenir permanente. Je crois que M. Cluzel l'a bien démontré dans le problème de l'audiovisuel. Pour moi, Jacques Treffel était un être exceptionnel, que l'on aimait de façon inaltérable. Il était attaché à votre famille, aux enfants, à leurs valeurs, ainsi qu'à toutes les actions que vous menez, tant en France qu'à l'étranger. Jacques Treffel, comme il aimait à le dire lui-même, a suivi un parcours républicain. C'est aussi un conseiller, un homme de l'école, comme Jules Ferry. Il affirmait la puissance que nous avons tous connue de l'école laïque en tant qu'ouverture sur l'avenir, sur le futur, sur les secrets des instituteurs, de toutes les fonctions culturelles. Toutes ces actions étaient dirigées vers le bien d'autrui et témoignent d'une grande générosité qu'il développa avec son ami Jacques Limousy. Il avait son franc-parler et était doté d'une grande culture. Il a fait montre d'un profond attachement à l'architecture scolaire qu'il considérait comme l'une des plus grandes formes pédagogiques susceptibles d'influencer élèves et professeurs. Il ne refusait aucun entretien, et ce, en dépit de ses multiples activités. Il regardait toujours l'avenir avec confiance. Sa profonde honnêteté intellectuelle rejaillissait sur tous les choix qu'il faisait afin d'apporter de nouvelles idées. Il faut bien reconnaître que le cadre de vie de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur ne correspondait plus à notre société. La critique générée en mai 68 se poursuivait, mais les utilisateurs, habiles défenseurs d'un système restrictif, demeuraient fermés à toute discussion innovante qui aurait pu apporter une solution enrichissante aux vrais problèmes. Jacques Treffel voyait dans l'architecture une vision organique et expressionniste, une volonté de servir son prochain, professeur ou élève. Devenant ainsi provocateur, il dirigea toutes ses réalisations sur l'ensemble du territoire, avec une réelle volonté de changement et de progrès, balayant l'obscurantisme ternissant de nombreux édifices appartenant au passé. Jacques Treffel fut le premier décisionnaire à l'origine de la création d'un nouvel espace scolaire où la lumière et la vie furent ses plus fidèles alliés. S'éloignant aussi de toute industrialisation intellectuelle, il construisit un nouveau paysage scolaire. Ma profonde affection envers lui n'oubliera jamais la joie qui brillait dans ses yeux lors de nos rencontres, et j'ajouterai ici que lors de sa dernière participation à nos réunions du mercredi, il est venu me demander quelques informations sur les Émirats. Je revois encore cet entretien durant lequel ces questions témoignaient de sa profonde ouverture sur le monde et de sa curiosité intellectuelle. Mais on ne peut parler de l'homme sans évoquer sa brillante carrière et son parcours à l'origine de son cheminement intellectuel. D'abord inspecteur d'académie avant l'âge statutaire, il gravit très rapidement tous les échelons et devint inspecteur général de l'organisation et de la vie scolaire. c'est-à-dire chargé essentiellement de construction. Il observait, s'informait, écoutait tout ce qui se rapportait à l'éducation de la jeunesse. En homme clairvoyant, il était convaincu qu'il fallait abandonner les divisions de classe traditionnelles qui avaient marqué plusieurs générations, volontairement choisies, pour répondre à un critère de surveillance et qu'il fallait les ouvrir sur des espaces entièrement libérés de ces servitudes. Il était convaincu que l'architecte devait participer avec les pédagogues à une action qui serait déterminante dans la formation de nouvelles générations. Par ailleurs, il désirait apporter dans la jungle des entreprises du bâtiment sa connaissance, sa subtilité, sa vision futuriste sur l'école des grands espaces déjà pratiquée dans les pays anglo-arabes et anglo-saxons, bien sûr. À cette époque, une normalisation du monde éducatif, insensible à toute modernité, voire redoutable, continuait inlassablement son chemin rétrograde. Tout créateur reste fidèle à sa commande, ne pouvait que s'éloigner de toute perspective de changement. Et pourtant, les immenses besoins nés de cette période de mutation, de la non-sélection et d'une période de grande explosion démographique réclamaient d'y apporter la plus rapidement possible des solutions concrètes. Il semble qu'à part quelques pédagogues novateurs comme Jacques Treffel, la vision de l'espace scolaire restait exclusivement abstraite et confuse, nous obligeant, nous, les architectes, si longtemps exclus de la sphère de l'éducation, à un profond respect des normes. De Biarritz à Lille, de Marseille à Paris, il fut un coordonnateur capable d'élever à la plus haute dimension l'ami qu'il respectait. Il fit faire à l'éducation nationale un grand pas. Et il en fut certainement un de ses plus grands serviteurs et amis. Sa réputation d'homme imaginatif amena le ministre Edgar Faure à le solliciter, puis ce fut Olivier Guichard, qui fit appel à lui, entre autres, pour concevoir et suivre la construction du beau lycée d'Andorre, de même que pour le lycée de Font-Romeu, voulu par le général de Gaulle, qui, du fait de son altitude, devait servir de lieu d'entraînement des athlètes qui se préparaient pour les Jeux olympiques de Mexico. Cette confiance spontanée qu'il accordait à tout créateur, ce qui ne s'était jamais vu au sein de ce ministère, s'avéra pour nous, architectes, une source de réflexion inépuisable sur l'avenir. En 1974, devenu directeur de cabinet de Jacques Limousy, ministre doté d'un esprit réalisateur, chargé des constructions scolaires et qui allait devenir son ami, il put travailler de concert et faire rentrer l'architecture à l'école. Il fit appel à nous pour mettre en place une architecture à espace aménagé qui vit la présence dans les lycées et collèges de salles à dimension évolutive destinées à l'enseignement magistral ou en petits groupes pour les recherches individuelles, de laboratoires fonctionnels, de théâtres de verdure, de salles polyvalentes, de galeries d'exposition, de centres de documentation spacieux et fonctionnels, ainsi que d'espaces de vie comme les cafétérias. Étant à l'écoute des grands centres canadiens et américains, il ne rêvait que de lieux où l'élève pourrait s'enrichir. Revenant des États-Unis, j'exposais à Jacques Treffel ce nouveau concept. Les moyens techniques existaient et étaient à la portée de tous. Seule la volonté d'un homme, telle que lui pouvait bousculer les habitudes et permettre de procéder à cet éclatement naturel et fondamental. Sous son impulsion, les services techniques réclamèrent l'emploi de nouvelles trames, donnant naissance à une architecture définissant de nouvelles normes pédagogiques. Les espaces de circulation devenaient actifs. De volumes compacts avec animation, de niveaux dans les sols étaient créés, apportant aux utilisateurs de nombreuses possibilités. Le traitement de l'ambiance fut particulièrement recherché afin de définir un milieu de travail agréable. N'ayant à sa disposition que des budgets serrés, il savait qu'il n'était pas nécessaire de faire du luxe, mais d'exprimer un espace fonctionnel personnalisé aux élèves et aux professeurs. Il était intimement convaincu que l'architecture ne pouvait être efficace que si l'osmose pédagogue-technicien se produisait et que rien ne serait acquis sans aucune meilleure appréciation des besoins de cette mutation sociale, indispensable dans un espace même bien organisé. Grâce à lui, ces structures innovantes furent étendues et généralisées plus tard par les essais de conseils, les conseils généraux, les conseils régionaux, du fait de la décentralisation administrative de la France. Ce qui lui valut d'être reçu comme membre associé à l'Académie d'architecture et plus tard, en 1986, d'être élu membre correspondant de l'Institut de France. Et nous nous trouvons aujourd'hui pour faire revivre un trop court instant cet homme à l'image forte et rayonnante, à la générosité active et à la bienveillance naturelle, qui n'avait d'autre souci que de mettre en valeur chacun dans la construction d'une communauté solidairement harmonieuse. Il avait le talent de faire émerger les énergies grâce aux mots spontanés qui rassurent. Il n'était pas à donner la plus haute dimension à ceux en qui en avait placé sa confiance et les mettait en avant. Jacques Treffel allait combler l'échec de la surface. Mais encore, il savait que l'architecture influe toujours sur le comportement de l'élève qui fréquente ce lieu de formation et peut devenir un instrument permanent d'une riche présence pédagogique. Jacques Treffel désirait que l'architecture serve de provocateur dans l'esprit de l'étudiant, de même que le professeur se doit de devenir plus imaginatif pour influer sur le mental de ses élèves. Enfin, Jacques Treffel, dans le noyau du programme, dut pallier les faiblesses des équipements rarement réalisés dans les opérations neuves, où une discrimination profonde existait dans la jeunesse, à la recherche de l'éducation sans obscurantisme. Il a mené une vie passionnante parmi de grands esprits. Il était heureux de la satisfaction de pouvoir faire partager sa passion à tous ses concitoyens. C'était un homme de cœur qui vous remerciait avec les récompenses de l'esprit. Il a servi jusqu'à son dernier souffle. Toujours tourné vers l'avenir, Jacques Treffel était un être d'exception, comme on en rencontre rarement. Il recherchait toujours la satisfaction de l'homme. Pour lui, la vie était superbe. La vie était magnifique. Il était toujours en quête de la satisfaction des citoyens. Il recherchait toujours les points évocateurs de richesse pour l'enseignement. Il sut également comprendre que la politique des modèles, si elle pouvait remplacer les cases vides, n'était rien d'autre qu'un produit financier partagé avec les entreprises attributives de ses missions. Secondé et appuyé par Jacques Limousy, l'architecture et l'urbanisme furent ses passions. Et il a déployé une énergie fondamentale en faveur de la culture et de l'éducation. Il fut secondé dans ce vaste programme par Madame Treffel, qui sut être convaincante. Aujourd'hui, loin de nous, mais présent dans nos pensées, son action doit se perpétuer afin que nos étudiants de toutes origines, dans un cadre propice à leur formation, puissent devenir des hommes et les femmes de demain, qui auront à participer à l'équilibre d'une planète souffrant de crise. Et nous devons toujours garder à l'esprit que nous ne pouvons pas limiter l'éducation de nos enfants à ce que nous avons appris, car ils sont nés pour une autre époque.
Après l'intervention de Roger Taillibert, vous allez pouvoir écouter celle de Jean Pruvot, professeur d'université, lexicographe, directeur des éditions Honoré Champion, qui a dressé le portrait de Jacques Treffel comme président du groupe d'études des marchés publics.
Madame la présidente de la MOPA, Madame Treffel, Monsieur le chancelier, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les membres de l'Institut, Mesdames et Messieurs les membres de l'Éducation nationale, en fait, très chers amis de la MOPA et donc de Jacques et de Marguerite Treffel, je suis tout d'abord très ému et très honoré de rendre compte devant vous d'une expérience qui a considérablement marqué mon existence. Au moment où, jeune inspecteur, il y a plus de 30 ans, j'étais invité par Monsieur l'inspecteur général Treffel à participer aux travaux du groupe permanent d'études des marchés publics dont il était le président. C'est dans ce cadre que je l'ai rencontré pour la première fois en 1983. j'y découvrais un modèle à suivre et, oserais-je le dire, un saint laïc qui forgerait définitivement ma religion au service de l'éducation nationale dont je suis un fils reconnaissant. Avant même de rappeler un par un les grands messages chaleureux et stimulants qui furent ceux de M. l'inspecteur général Treffel tout au long de l'expérience si formatrice des réunions du groupe permanent d'études des marchés publics, il me faut immédiatement souligner que, dès la première rencontre, la révélation, au sens du mot acquis vers 1870, ce qui apparaît brusquement comme une connaissance nouvelle, un principe d'explication. Eh bien, cette connaissance, cette révélation fut sans équivoque. Ce qui émanait de M. Treffel et d'où tout découlait, c'était ce maître sentiment qu'est la générosité. Ce sentiment treffelien se trouvait si prégnant et si rayonnant qu'il est bon de bien définir tout d'abord le mot qu'il désigne. Comme vous le savez, ça vient d'être rappelé, je ne peux vivre sans cette grande famille de dictionnaires qui balisent et enrichissent notre langue et donc notre pensée en l'ancrant dans l'histoire profonde de l'être humain. Il importe ici de rappeler que la première fois où le mot « générosité » est défini en langue française, c'est dans le dictionnaire bilingue de Miège, en 1677, avec cette formule à la fois lapidaire et lumineuse, « disposition à donner plus qu'on est tenu de faire ». Et on retrouvera cette formule complétée en 1690 dans les lettres de Pasquier, avec cette autre dimension, « qualité qui élève l'homme au-dessus de lui-même ». Eh bien, ce sont ces deux sentiments qui n'en font qu'un, le don de soi et l'oubli de soi au bénéfice de la communauté, que M. Treffel incarnait de manière spontanée et radieuse, ce qui en faisait immédiatement un saint de l'éducation nationale. C'est donc en 1983 que le jeune inspecteur, au bec encore jaune que j'étais, pénétrait pour la première fois au ministère de l'éducation nationale, non sans avoir l'impression d'entrer dans un sanctuaire. Et dans les couloirs du temple, j'ouvrais donc la porte d'une salle où se réunissait le GPEM, sigle d'abord inquiétant, puis rassurant, sigle qui désignait le groupe permanent d'études des marchés. Un peu d'histoire est peut-être ici nécessaire, et je remercie au passage Mireille de Vauchier, qui a longtemps travaillé aux côtés de M. Treffel avec Mme Zampiro, et qui a eu la gentillesse de m'en rappeler les grandes étapes. Existait en effet, depuis l'après-guerre, 1950, ce qui était appelé la Commission centrale des marchés, qui, en 1973, à la suite d'un remaniement, entraînait donc la création, dans son sillage, d'une nouvelle structure, le groupe permanent d'études des marchés publics. Celui-ci a dès lors été rattaché au grand ministère acheteur, et donc par définition au ministère de l'Éducation nationale. Ce qui explique que le GPEM a de fait toujours été confié à des inspecteurs généraux, et ce fut donc successivement messieurs les inspecteurs généraux Mérien, Renard, Marc, qui le présidèrent de 1973 à 1981. Et monsieur l'inspecteur général Treffel en prit donc la responsabilité à la fin de l'année 1981. D'emblée, il mettait en place une structure imposante, avec en moyenne 3 réunions par semaine, pour animer 16 à 18 groupes distincts, désignés par des lettres données dans l'ordre alphabétique. C'est émouvant aussi pour moi a posteriori. Par exemple, A pour le GPEM bois d'œuvre et d'industrie, B pour l'ameublement de bureau, C pour papier et carton, D pour équipement préscolaire, scolaire et universitaire, mais aussi pour les nouvelles formes d'édition, le tout aboutissant à un guide de l'acheteur. Suivent aussi dans l'ordre des lettres alphabétiques, les GPEM consacrés à l'équipement des collectivités, à l'équipement pour les sports et les loisirs, aux GPEM dévolus à l'écriture et aux recommandations, avec une charte graphique. Citons encore très rapidement les GPEM ayant pour thème les productions graphiques en relief à l'usage des personnes déficientes visuelles. On n'oubliera pas davantage tout en percevant la riche multiplicité des sujets abordés, et je vais vite parce que la liste est longue, la polyvalence des mobiliers, des équipements, des espaces de jeu de la petite enfance, les GPEM jouets éducatifs, ergonomie en bureautique, polyvalence des équipements éducatifs et socioculturels, les espaces verts, la création et le développement des centres de traitement des ouvrages de bibliothèque, l'imprimerie, la réprographie, le marché de la communication, la signalisation des établissements et l'élaboration des mobiliers d'information par la signalétique, l'équipement des centres de documentation des administrations publiques, l'introduction du design dans la commande publique, l'ergonomie, ses applications, l'introduction des technologies nouvelles, monsieur Cluzel, monsieur le secrétaire perpétuel, y faisait allusion, dans la gestion des établissements publics. Vous le constatez, Il fallait pour un tel éventail un homme hors du commun. C'est en architecte extraordinaire et chef d'orchestre sans la moindre faille que M. Treffel établissait des ponts entre les différents comités, et c'est ainsi qu'invité à parler des dictionnaires, je me retrouvais aussi dans les réunions de travail portant sur l'écriture, sur l'ameublement scolaire, sur les manuels scolaires. Le cadre étant rappelé, c'est très brièvement maintenant et à travers cette expérience que je rappellerai quelques traits et quelques formidables enseignements diffusés par Jacques Treffel dans cette dynamique dont il était l'inventeur rayonnant. Première expérience et donc premiers enseignements. La première fois que j'étais sollicité par M. Treffel, c'était pour présenter des dictionnaires. En l'occurrence, des dictionnaires analogiques. Je n'ose dire que M. Treffel était prédisposé à y trouver un intérêt, parce que d'évidence, il avait ce talent de l'analogie, ne laissant rien échapper d'une idée, rassemblant autour d'elle le réseau des concepts et des personnes pouvant y correspondre. Cette conférence s'effectuait dans une salle du ministère, tout en longueur, et je crois bien que j'y ai vécu mes premiers applaudissements, ce qui était non pas gage de réussite, mais la marque permanente de courtoisie de M. Treffel, qui savait y instiller pour chacune de ses réunions la courtoisie qui convenait. Il y faisait en effet toujours applaudir la personne qui venait d'offrir un exposé, qui de ce fait se transformait en conférence. J'ajouterais que derrière les applaudissements venait aussi toujours la belle phrase d'hommage, mais aussi d'exigence de l'homme actif. « Monsieur l'inspecteur, monsieur Pruvot, disait-il, infiniment merci pour cette conférence et grand merci. Si vous pouviez d'ici quelques jours nous en communiquer le texte, nous la publierons, c'est un texte important. Comment refuser ?» Le jeune inspecteur de l'éducation nationale prenait conscience que la générosité, la courtoisie abattaient tous les murs et que même si on se trouvait dans une période de travail éreintant, on sauterait sans aucun doute une nuit pour rédiger ce texte, le mettre en forme et non pas le donner, mais l'offrir à la personne qui vous avait traité avec tant de déférence. Plusieurs concepts en batterie analogique s'installaient immédiatement à la suite de cette première rencontre en termes d'enseignement. Plus particulièrement pour le béjaune que j'étais. D'abord, un sens certain de l'accueil, de la conférence à bien assurer. Ensuite, le sentiment y correspondant de la reconnaissance pour l'audience offerte par le maître d'œuvre. Une déférence ressentie avec plaisir, mais évidemment assortie d'une exigence, faire preuve de diligence dans la remise du texte de la conférence. Deuxième expérience. C'est en vérité un souvenir qui m'a marqué avec un sentiment encore aujourd'hui de grande tendresse, comme j'ai eu la chance de le signaler avec mon ami Axel Mauger sur Canal Academy, cette radio si bienfaisante, vivifiée par M. Cluzel et Mme Renard. Il s'agissait, je m'en souviens parfaitement, d'une salle prestigieuse, la bibliothèque au ministère, toute de chêne vêtue. C'était en hiver. J'avais alors une cravate, une sorte de blouson épais, comme on en porte par grand froid, sans veste. Il faisait très chaud. Sans même y penser, et en définitive, très cavalièrement, j'enlevais le blouson. Au bout de quelques minutes, en suivant ainsi les débats en bras de chemise, M. Treffel me signala que je risquais d'attraper froid. Et il m'engageait à remettre ma veste blouson. Sottement, je ne comprenais pas le message. Et je répondis « Merci, monsieur l'inspecteur général, je n'ai pas froid. » Quelques minutes plus tard, il réitérait la demande en affirmant paternellement, mais fermement, « Monsieur l'inspecteur, j'insiste, vous avez attrapé froid. » Je comprenais alors, et enfin, la teneur du message signifiant en vérité qu'il n'était pas correct du tout de se trouver en bras de chemise dans un haut lieu du ministère, et dans le ministère tout court. Je prenais conscience ainsi ce qu'était l'indécence, et j'apprenais donc la déférence. C'était en somme une tendre leçon de politesse. Troisième expérience. Ici, j'en ai la date précise. Il s'agissait du 3 juin 1985, au foyer des lycéennes, 10 rue du Docteur Blanche. C'était l'une des grandes manifestations organisées par Jacques Treffel, un colloque et une exposition. Le thème en était les outils administratifs, culturels et pédagogiques. Le programme était impressionnant, M. Baudin, Mme Josette Redebov, hélas disparue, M. René Lagan, M. l'inspecteur général Pasquet et bien d'autres. Et je me souviens fort bien d'être venu en voiture au petit matin pour y exposer pour la première fois des dictionnaires d'hier et d'aujourd'hui. C'était en réalité, et c'est pour ça que j'en suis encore très ému, l'embryon de la journée des dictionnaires qui me serait chère par la suite. La première journée, en définitive, toujours la plus importante. Prestance, élégance de la relation, préséance, mais aussi éloquence à travailler devant un public d'environ 200 personnes. Tels étaient ici les beaux enseignements que nous offrait M. Treffel en maître discret, attentif, bienveillant et pour ma part en élève admiratif. quatrième et dernière expérience. C'était en 1985, dans les salons du Sénat, à l'occasion d'une cérémonie autour d'un ouvrage remarquable de M. Roger Druet sur le thème de l'écriture de Dagobert à De Gaulle. Alain Poher y prononçait un discours. M. Treffel, sans aucun doute parce que j'étais le benjamin du comité travaillant sur le sujet, me proposa à mon grand étonnement, d'abord ravi, avec un fort sentiment d'angoisse ensuite, de prononcer le discours à propos de l'écriture. Là également, j'étais victime et bénéficiaire du tempérament exceptionnel de Jacques Treffel, marqué par la confiance en la jeunesse, une forme aussi d'imprudence calculée, et puis ensuite de l'indulgence. C'était en effet la première fois que je prononçais un discours très soigné, très préparé, mais mémorisé, sans notes, debout. Et évidemment dans l'angoisse montante, parce qu'il s'agissait de dire des choses juste dans la magnificence des salons de la République, j'ai du même coup oublié quelques paragraphes. L'éloquence était balbutiante. Et je me souviendrai toujours que sitôt le discours prononcé, si on peut dire, hésitant en tout cas, vint son propos si gentil que je traduisais comme une formidable indulgence de sa part. C'était là aussi un quatrième enseignement. Savoir faire confiance aux jeunes, c'est le propre de la MOPA, en faisant preuve d'indulgence quoi qu'il arrive. Il y aura encore de nombreuses expériences à évoquer, tant le simple fait de travailler sous la responsabilité de Jacques Treffel, à quelque niveau que ce soit, constitue un enseignement permanent, dans une sorte d'admiration et d'acquiescement immédiat. Je ne retiendrai avant de conclure qu'un dernier moment, à la suite d'une réunion de l'un des comités, où dans le couloir, au seuil de son bureau, je lui remettais un article qu'il m'avait demandé. Tout en me remerciant, il me déclara sur le ton de la confidence et de la confiance paternelle. « Monsieur Pruvot, vous savez, je travaille beaucoup. Je m'amuse aussi beaucoup. J'apprends beaucoup. » Encore un merveilleux message et un merveilleux enseignement. Ne jamais perdre l'innocence constructive, cette soif d'apprendre, ce goût ouvert et bâtisseur de l'enfant pour toutes les connaissances, en les reliant dans une sorte de jouissance renouvelée, de bonheur stimulant et contagieux. Jacques Treffel transmettait le bonheur, celui de se construire, de nous construire tous ensemble. La générosité est heureuse. Cette générosité, qui nous l'avons signée en introduction, correspond à ce qui émanait immédiatement de Jacques Treffel dans la seconde où on avait la chance de le rencontrer. J'ai ouvert ces quelques propos émus en assimilant Jacques Treffel à un saint. Je conclurai par un synonyme échappant à la métaphore religieuse avec l'image simple et forte du grand homme. Que déclarait André Mauroy dans le dialogue sur le commandement en 1924 à propos du grand homme ? Je crois, affirmait-il à travers l'un de ses personnages, que la première différence entre le grand homme et l'homme du commun, c'est que le grand homme connaît sa puissance et sait qu'il peut inventer l'avenir. Devant cet abîme obscur dont nous parlions, il esquisse le plan de ce qui sera. Il jette des passerelles, il réunit des matériaux. Ce qu'a fait magnifiquement M. Treffel. Et vient alors peut-être le plus important pour la communauté en modèle qu'il représente, je recite de nouveau, « Il est l'architecte de sa vie et de celle des autres. » Merci, M. Jacques Treffel, M. l'inspecteur général, M. le président des Palmes académiques, notre modèle, notre maître et ami, d'avoir su nous bâtir et de continuer d'être cet architecte de nos vies, comme en témoigne ici notre présence recueillie, fidèle, reconnaissante. Merci aussi de toujours avoir su nous rappeler le mot pertinent d'un grand homme politique, signalant que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Merci aussi de cette force de continuation que vous nous donnez avec Marguerite Treffel, notre présidente très aimée. Merci infiniment, comme vous le disiez souvent, Monsieur Treffel, infiniment.
Cette journée d'hommage s'est poursuivie avec les interventions de Louis Forestier, professeur à l'université McGill, université où enseignait également Axel Mauger, puis avec Alain Villemin, Ronald Nosinchuk, Alphonsine Poujade, et elle a été conclue par les mots chaleureux de Jean Auba, lui-même inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques et vice-président de la MOPA. Sur le site de Canal Académie, vous pouvez trouver l'intégralité des textes de Jean Cluzel et de Jean Pruvot, ainsi que plusieurs émissions consacrées à la MOPA avec Jacques Treffel lui-même, à propos des 200 ans de l'ordre des Palmes académiques et à propos de la revue de la MOPA dirigée par Madame Treffel.